temps moyen. OK. Bon, mais c'est beau. Là, c'est parti. Vas-y, mon brother.
All right. Bon, ben, salut tout le monde. Hein. Moi, c'est Michel. J'ai trois petites choses avant qu'on se lance dans le message. La première des choses, je voulais juste vous dire, tandis que là, je suis en avant, ben, je trouve vraiment, puis ça vient vraiment du fond de mon cœur, je trouve vraiment que vous êtes une belle assemblée. Je vous le dis, là, j'ai pas nécessairement été voir, puis je le fais pas par comparaison, là, mais ici, juste par observation, puis par discernement assez simple, là, je vois qu'il y a beaucoup de, t'sais, d'amour, il y a beaucoup de proximité entre chacun de vous autres. Là, il manque peut-être des gens cet après-midi, mais c'est même les enfants, tout ça. Moi, je regarde beaucoup, puis je vois ça aller, puis c'est vraiment beau. Il y a de l'humilité, il y a une soif d'entendre la parole de Dieu. Il y a de l'entraide. Hein, mais Maxime, l'autre fois, il texte pour savoir si quelqu'un peut venir l'aider pour si ça. Je suis sûr que tu as reçu de l'aide d'un frère.
Oh, oui. Ah,
vous parlez tout le temps de Christ. Vraiment, là, tu sais. Puis, vous êtes ouvert d'esprit. Tu sais, je sens que dans les chants, les prières, les louanges, il y a une sincérité, une authenticité. Fait que je voulais vous dire qu'est-ce que moi, je constatais, mais je peux me tromper, là. Fait que
on n'est pas
dans le même du tout. On est... Ah ouais, OK. Mais je voulais vous poser la question. Je voulais vous poser la question. J'ai posé la question à Guillaume l'autre jour, puis il m'a dit, ben oui, hey, ici, on détonne. Mais il disait ça dans l'humilité parce que vraiment, je suis sûr que vous le sentez aussi, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans votre assemblée. Est-ce que ce que je dis, vous le remarquez ou c'est juste normal pour vous? C'est une assemblée bien normale.
Ça devrait être normal.
Ouais. Bien dit. Mais c'est spécial.
Ben, puis dans le contexte, quand je dis ça, détonne, c'est que dans le fond, c'est quand même un peu spécial, mais il n'y a pas tant que ça de gens qui vont. Il y en a qui vont avoir plus une centralité sur Christ, mais la vie a changé, puis notre identité en Christ, puis la vie Galate 2.20.
Ouais.
Dans ce sens-là, je me disais qu'on. Puis, tu sais, je disais ça juste comme. Tu sais, ça ne devrait pas être le cas.
Ouais. Ouais.
Seigneur est à l'autre.
Ouais. C'est par lui que tout ça arrive. Mais je tenais vraiment à vous le dire. La deuxième petite chose, il y a un verset qui me tranche à chaque fois que je le lis, c'est 2 Timothée 2.15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Je vais avoir du travail à faire pour... que ce verset-là m'adoucisse un peu, là, je vous le dis, de se tenir devant Dieu comme quelqu'un qui prêche, qui dispense la parole, moi, ça me met un stress énorme. Puis oui, j'ai de quoi à rougir, hein, on s'afflige soi-même, soit tu négliges ton temps de préparation, tu t'investis pas assez dans la prière, tu te prépares pas assez physiquement aussi. C'est certain que c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Puis, j'abandonnerai pas l'appel qu'il m'a fait parce que c'est chant une pression ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je voulais exhorter aussi Christophe, puis Guillaume, puis Maxime, puis Sébastien n'est pas là. Mais tu sais, à continuer dans le ministère, puis s'il y en a d'autres, je sais pas, là. Mais c'est sûr que c'est pas facile de pas rougir devant Dieu. Mais c'est l'appel qu'il vous a fait. Ma dernière petite chose, puis je le dis comme au cas où c'est que j'oublierais, parce que des fois on part, puis là on est avec la technicalité, la doctrine, mais Dieu vous aime. C'est tout simplement ça. C'est vrai, des fois ça peut arriver, on prêche, puis on oublie de dire la phrase « Dieu vous aime ». Fait que... je l'aurais pas oublié, je vous l'ai mentionné. Puis un jour, vous allez voir Jésus, vous allez le voir, vous allez être devant lui. Ça va être le plus beau jour de votre vie. Fait qu'on va commencer dans la prière, si vous voulez. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te rends gloire pour la belle famille ici à Saint-Augustin. Wow, Seigneur, ton esprit, vraiment, ton amour, Seigneur, est tellement présent. Merci pour ta parole, mon Dieu. Si on est ici, c'est parce que tu nous as convoqués ici. Seigneur, on a répondu parce qu'on veut te célébrer, on veut t'entendre, on veut connaître ta volonté pour nos vies. Mon Dieu, c'est de ta parole que vient l'autorité. Et puis, on se soumet à toi, mon Dieu. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Fait que venez avec moi dans la Bible, au verset, dans l'Épître aux Éphésiens. Mm-hmm. Là, j'ai été influencé. Ici, ça prêche la vie abondante, la nouvelle vie, la position en Christ. Là, j'ai fait « Oh, OK, ouais. » Il va falloir que je m'y mette aussi. Fait que je me suis mis à écouter des sermons de Mark Minnick, évidemment. Guillaume me coach un peu. Puis Chris aussi, il m'exhorte. Fait que voilà, on va s'essayer. Fait qu'aller au chapitre 1. Puis ce qui va nous intéresser surtout, c'est... la fin du chapitre 2, okay, le thème de mon message, c'est une habitation pour Christ. Mais avant qu'on se rende là, je veux juste qu'on survole à vol d'oiseau le premier chapitre jusqu'à là. Alors, un jour, je réussis à trouver Éphésiens. Hein? All right. Ouais. Vous connaissez-tu le truc Go Eat Popcorn pour ouais. Les épées? Ouais, ok. Ouais. Moi, je ne démêle pas encore. Il faut que j'y aille avec Go Eat Popcorn. All right. Fait que dans les deux premiers chapitres d'Éphésiens, il y a quatre sections majeures. OK. Vous les avez peut-être divisées dans votre Bible sous forme de sous-titres. La première section majeure qu'on voit au chapitre 1, c'est du verset 3 à 14. Ça commence bien sûr par verset 1 et 2, là, la salutation. Mais au verset 3... c'est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est-tu un beau verset? Hein? Ici, je vous pose la question, Paul, il remercie, hein, il bénit le Père, pour quelle raison? C'est pas une question piège. Pour les bénédictions. C'est beau. Quelle bénédiction? Spirituelle. Dans les lieux célestes.
En
Jésus. On peut-tu en nommer quelques-unes, peut-être, plus précisément?
La vie. Tout ça.
Ouais, tout ça. C'est vrai que ça englobe tout ça.
Élu.
Oui?
Élu.
L'élection, on peut dire ça. Le pardon, la sagesse, l'héritage, la famille, la sainteté, tout ça. Puis, il nous... Ici, c'est dans quel but que Dieu, il bénit le Père? Dans quel but est-ce que vous voyez ici, là, que Dieu, il s'adresse au Père en remerciement, en louange?
Tu veux dire Paul?
Paul, j'ai dit quoi?
J'ai dit Dieu.
J'ai dit Dieu, OK. Paul. Dans le but de célébrer hein, la gloire de Dieu, ouais. Simplement. Si vous regardez au verset 14, juste à la vraiment toute fin, pour célébrer sa gloire. Hein? Mais, juste à approfondir un petit peu ça, au verset 6, dans cette section-là, on voit que c'est écrit « pour célébrer la gloire de sa grâce ». Donc, ce qu'on peut juste comprendre de tout ça, c'est que Paul, il remercie Dieu de se glorifier lui-même. Dieu, il se rend gloire à lui-même. Ça pourrait avoir de l'air orgueilleux là, si n'importe qui faisait ça, mais pas Dieu. Puisque à lui appartient toute la gloire, puis il est digne. Fait que c'est un hymne à la gloire de Dieu. Hein? Dieu le Père. Fait que ça, c'est la première section majeure du chapitre 1. Puis la deuxième section majeure du chapitre 1, c'est du verset 15, évidemment, jusqu'à la fin, c'est 23. 15 à 23. Ici, on a une prière. Une prière de type de révélation. Une prière que Dieu nous donne pour le connaître encore plus, lui, puis qu'est-ce qu'il fait. OK? Fait que si on lit... Juste en passant, y a-t-il quelqu'un qui aime lire? Moi, j'aime que les gens participent. Fait que Éphésiens 1, 17, 18, y a-t-il un bon lecteur qui veut lire? Oui, oui, Chris.
17, 18?
Ouais.
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire, lui donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Simplement, hein? De la révélation dans sa connaissance, fait qu'on le connaisse, puis l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, la gloire de son héritage, qu'est-ce qu'il fait avec nous, hein, les saints, qu'est-ce qu'il nous réserve en fait. Puis la troisième section majeure des deux chapitres, on voit ça au chapitre 2, versets 1 à 10. Ici, on a une illustration. Donc, c'est une illustration qui est prise de l'expérience personnelle de chacun de nous. Quand on a rencontré le Seigneur, eh bien, hein, il nous a transformés, il nous a fait passer de la mort à la vie. Puis c'est ça qu'on a ici. Y a-t-il quelqu'un qui veut lire le verset 2 et 5 du chapitre 2? Allez-y, là, ouais.
2 et 5?
Ouais.
Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons dû à la vie avec Christ. C'est par sa grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés.
Man, fait que c'est juste une belle illustration ici qu'on voit de qu'est-ce qu'il a fait avec nous. Hein? On est passé de la mort à la vie. C'est un miracle. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Puis il nous le décrit ici. Puis la dernière section dans Éphésiens, c'est ça qu'on va plus se concentrer, c'est du verset 11 à 22. On a un mystère. Hein? Un mystère qui nous est comme amené, dévoilé. OK? Y a-t-il quelqu'un qui veut lire?
OK. C'est quel verset?
Ben juste avant, le contexte de l'épître aux Éphésiens, c'était Paul, il était où? Oui, il était en prison où? À Rome, c'est ça. Puis il était quand même à un niveau bas de sa vie. Puis Éphèse, c'était aussi une ville très... Païenne, c'est ça. Il exaltait Diane. Okay? Il y avait un temple majestueux là-bas. Fait que c'était pas facile pour les Éphésiens de vivre là-bas. Fait que, vous imaginez juste comment est-ce que de révéler un mystère comme ça aux Éphésiens, ça l'a pu, disturb, hein, juste déranger. Entre autres, pourquoi il était en prison, Paul. Le mystère de Christ, fait que du chapitre 2, verset 11, jusqu'à peu près au milieu du chapitre 3, on voit ce mot-là revenir. Puis dans l'Épître aux Éphésiens, le mystère, c'est dans cette épître-là que ce mot-là revient le plus souvent. Fait que moi, je trouve ça assez intriguant. Chapitre 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance d'un mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Au verset 4, En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est le corps, hein, l'Église. Et puis, ça va jusqu'au chapitre 9, on peut lire encore. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Fait qu'il était caché, on va dire, dans l'Ancienne Alliance, puis maintenant, il nous est révélé dans l'Épître aux Éphésiens. Amen. Puis, ce mystère-là, c'est quoi?
L'Église.
Ouais. Mais c'est de rassembler tous les païens et les juifs en un seul corps. Amen. Avant, c'était pas pensable. C'était juste les Juifs qui étaient héritiers de la promesse, mais en vrai, non. La promesse qui a été faite à Abraham, c'était pour tous ceux qui allaient croire. Mais comment est-ce que ça serait possible d'unir tout le monde en un seul corps? Comment ça serait possible? Il faudrait qu'il y ait une réconciliation. Hein? des hommes, des femmes avec tout le monde, des hommes avec les hommes, puis des hommes avec Dieu. Qu'est-ce qui pourrait faire une chose comme ça?
La croix.
La croix. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. J'essaie pas de vous piéger, là. au verset 16, Maxime, veux-tu lire, mon frère?
3:16?
2:16.
OK. 2:16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.
L'inimitié, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Puis le mot pour ça, c'est? Enemy.
Enemy, ah oui, OK.
En anglais, c'est enmity. Ça ressemble plus à enemy. Puis l'inimité, oui, en grec, ça veut dire une raison de s'opposer. Mais pour quelle raison Dieu qui n'a jamais fait de mal à personne? Pourquoi quelqu'un s'opposerait à Dieu? Pourquoi lui-même aurait une raison de s'opposer? Pourquoi est-ce qu'ici on voit l'inimité? Est-ce que vous avez une idée?
À cause du péché.
À cause du péché. Romains 1, 18, si vous voulez tourner, je vais vous le lire. La sainte colère de Dieu se révèle du ciel. C'est pas écrit la sainte colère, mais on comprend que c'est une sainte colère. Se révèle du ciel contre toute impiété. Toute impiété, c'est toute absence de vertu. Et toute injustice, tous les comportements injustes. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Même si vous avez marché parfaitement toute votre vie et que vous avez juste eu un doute, est-ce que Dieu existe? Dieu n'accepte pas ça. Douter de Dieu, ça n'existe pas là, dans son royaume. Philippiens 3:18, il dit, Paul, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Puis moi, je veux juste vous rassurer avec Romains 8:1, c'est mon verset préféré, je pense. Il n'y a maintenant donc
aucune
condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Un enfant peut comprendre ça. Jésus est là. Il est là pour nous sauver. Puis même si on prêche Genèse, la création, toute la vie abondante, les gardes spirituels, tout ça, moi je veux que ça soit clair que le but premier, c'est que Jésus il est là pour nous sauver. Sauver de la mort, la perdition, la ruine de l'âme, c'est ça que ça veut dire. Pour toujours. Une séparation. Fait que c'est quand même important que ça soit inclus dans un message. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, au verset 19, c'est là qu'on arrive dans le punch de qu'est-ce que je veux amener. C'est écrit « ainsi donc ». « Ainsi donc » veut dire « tirer une conclusion ». Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Est-ce que vous êtes là, Éphésiens 2, 19?
Ouais.
Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Oh, OK, on parle d'une nouvelle position. Première chose, mais vous êtes concitoyens des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Citoyen, droit de cité.
Ouais.
Quelle cité?
Cité céleste.
Cité céleste, royaume de Dieu, on peut le dire, comme ça. Avec qui? Les saints. C'est qui ces saints-là? Ouais. Mais ici, il parle spécifiquement des Juifs sauvés de tous les temps. Deuxième chose qu'on voit, c'est vous êtes maintenant gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu, c'est une position dans une maison qui signifie quoi? Une nouvelle famille. Ouais. Hey, vous êtes dans une nouvelle famille. Moi aussi. La maison de Dieu, on a des frères, des sœurs, puis des cousins, mais c'est on est tous frères et sœurs avec tous les saints. Puis on s'aime tous, on partage tout, puis on a Dieu comme père. C'est une grande famille, la famille de Dieu, puis c'est réel, on le voit là. Si on continue. Ah oui, puis en passant, on peut penser qu'on a été adopté, hein, dans la famille de Dieu, mais en tout cas, le terme adopté, c'est vraiment pour quelque chose de spécifique, mais on est né de nouveau par la vertu du Saint-Esprit. Fait qu'on est né dans la famille de Dieu. Hein, si vous prenez des parents adoptifs, bon, ben, ils peuvent adopter un enfant, lui donner de l'amour, lui donner des ressources, tout ça, mais ils ne peuvent pas leur transmettre leur nature à l'enfant adopté. Mais Dieu, ce qu'il fait avec nous, c'est ça, il nous transmet sa nature sainte. Là. Fait qu'on est né de son esprit, on est vraiment né de Dieu dans la famille, pas juste adopté in. Petite parenthèse. Alors, troisième chose qu'on voit dans les versets qui nous concernent, au verset 20, on continue. Vous avez été édifiés. Édifiés, ouais, c'est ça. Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Fait que si on voit qu'on est rendu un temple saint qui abrite Dieu ou un sanctuaire, je ne sais pas ce que vous préférez, un temple, un sanctuaire, ça n'a pas d'importance. Puis ce que je propose juste après-midi, c'est qu'on voit et qu'on comprenne bien la vérité du concept du temple. Hein? Christ en nous, qui habite en nous, qui demeure en nous. Je veux juste qu'on regarde ça légèrement, simplement, clairement, avec des illustrations. C'est pour ça que j'ai amené des roches. On va parler de pierres vivantes.
Oh! Mm-hmm.
Au verset 20 à 22, 20 à 22, est-ce que vous avez remarqué une ressemblance des mots? Si vous voyez, là, vous avez été édifié, hein? On parle d'un édifice sur le fondement, ça appartient au terme de construction des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On ne parle pas seulement de pierre angulaire, à part dans le contexte d'un fondement. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Fait que là, on a un autre synonyme ici, un temple. Saint dans le Seigneur, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. Je pense que Paul, il veut vraiment nous illustrer l'image d'un temple. Hein? Est-ce que vous voyez ça un peu? On est le temple de Dieu érigé sur une seule fondation, laquelle?
Jésus-Christ,
là. Quelqu'un qui l'a dit, la pierre angulaire. Hein? Et puis, c'est qui l'a posé, ce fondement-là? C'est les apôtres. Hein? Mais est-ce que c'est eux le fondement? Non. Il y en a qui vont me comprendre ce verset-là, je pense que c'est dans Matthieu 16, que c'est Pierre, la pierre angulaire. Ou les apôtres tout court. Mais non, dans 1 Corinthiens 3:11, Paul il nie ça. Il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir
Jésus-Christ. »
Savoir Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Alors, quel événement qui a établi Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire? Il y a eu un événement historique. Vous êtes proche.
La résurrection.
La résurrection. Hein? S'il n'y a pas de résurrection, on ne peut pas se fier sur un homme mort. Mais puisque Dieu est mort, hein, puisque Jésus est ressuscité, c'est en lui qu'on sait qu'on peut fonder notre espoir. 1 Corinthiens 3:10, Paul il dit juste au-dessus, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » En tant que prédicateur, messager, tout ça, Paul, hein, apôtre, il exhorte à ceux qui dispensent la parole de bâtir sur le vrai fondement. Puis on sait qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'organisations, toutes sortes d'églises qui prétendent appartenir à Christ, hein, faire partie de la famille de Christ, mais c'est pas nécessairement le cas. Verset... Alors, bon, on va skipper ça. vous êtes sûrement au courant que des fois, il y en a qui rétractent des choses, il y en a qui nient des choses, qui désavouent des choses dans les enseignements, dans certaines organisations, tout ça. Je veux juste être sûr avec vous que vous sachiez que si ces entités-là, ils se fondent pas sur le seul et unique fondement que toute la Bible est vraie, tout ce qu'il a dit doit être considéré véridiquement, mais ces organismes-là ne font pas partie de l'Église, du corps de Christ que je vous ai parlé dans Éphésiens. Dieu, il réside pas, c'est pas, Dieu instruit pas ces gens-là dans ces doctrines-là. Jude 1, 3, 4, y a-t-il un rapide qui est bon pour aller jusque-là? Sinon, je vais le lire. Guillaume?
Non,
je vais lire. Bien-aimé, alors je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. L'Église catholique romaine n'est pas fondée sur Christ. Le purgatoire, Marie-Mère de Dieu, les traditions de l'Église, l'autorité, l'infaillibilité papale, tout ça, c'est pas enseigné dans la Bible. Alors, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, tout simplement. Puis là, on arrive au verset 21. Si vous retournez dans Éphésiens 2, au verset 21, on va finir notre passage quand même. Verset 21, il est écrit en Christ, en lui qui veut dire en Christ en fait. Ouais. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Bien coordonné s'élève, ces trois mots qui traduit un mot grec, synarmologeo. L'idée de ce mot-là, c'est un processus de sélection, ok, bien précis, même nommé, ok. Puis l'idée de joindre ensemble, il y a un gap, hein, faut pas que ça tombe, de joindre ensemble. Ça veut dire que nous, les croyants, on a été choisis par Dieu, sélectionnés, scrutinés, pour être joints ensemble. L'Église, là je parle de l'Église universelle, okay? depuis 2000 ans. Mais je suppose que quand on lit un passage, comme on vient de dire, bien coordonné s'élève, hein, l'édifice, le temple, on pense à, t'sais, un mur de briques, comme vous voyez le pupitre ici, tout bien agencé ensemble avec du mortier ou je sais pas c'est quoi. Du mortier, ouais. Mais en fait, l'idée que Paul nous donne ici, c'est que prenez des pierres, ok, comme ça ici, puis essayez de les agencer ensemble. Parce que regardez, elle est verte, elle est blanche, elle est petite, elle est concave, elle a des formes drôles. Essayer d'agencer ça ensemble, ça prend un travail de minutie, ça prend de l'adaptation entre les pierres. Puis c'est ça l'idée de l'Église, c'est qu'on est tous différents. On est tous beaux, en tout cas, moi je trouve que vous êtes tous beaux. Beau et belle, hein, Chardin? C'est l'image de l'individualité qui est réunie ensemble, le corps de Christ. 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante au singulier, c'est lui qu'on parle. Jésus, c'est la pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Bien coordonné, s'élève ensemble. C'est ça l'image qu'il nous donne. Vous savez que c'est un immense privilège de faire partie de l'Église. Hein? Amen. On a aussi ce petit sentiment-là en Église locale. Qu'on fait partie d'une famille, d'un édifice ensemble. T'sais, moi, je vous vois ici, vous êtes là, moi j'ai mon église à Bel-Air. C'est un privilège extraordinaire. Puis moi, ben, j'ai connu juste une église dans ma vie. Ben, j'ai visité d'autres, ici évidemment. Puis j'ai des beaux souvenirs, mais j'ai des souvenirs aussi poches. Comme de la division, de la querelle, puis du malaise, de l'abandon. En tout cas, sûrement que vous n'avez vu aussi. Je parlais avec Sylvie, hein, qui me racontait un peu son témoignage. Elle en a vu des choses drôles. Puis, je voulais dire que c'est vraiment un privilège si vous avez trouvé la place où c'est que Dieu il vous veut. Puis que... c'est vraiment la volonté du Seigneur, c'est que vous soyez toutes réunies ensemble en église, puis que vous, comme vous y demeuriez, tu sais, être scattered, là, puis être éparpillé partout, c'est pas la volonté de Dieu. On devrait pas chercher une job meilleure, puis après ça. Un coup qu'on a trouvé la job, essayer de trouver une petite église autour qui fitterait peut-être. Hein? La question de votre église, votre assemblée, c'est une question d'ordre spirituel. Là. C'est une question qui ne se prend pas tout seul, ça se prend avec le Seigneur. C'est... En tout cas, moi je pense que c'est ça. Là. La Bible aussi, je pense qu'elle dit ça. C'est d'avoir aussi l'assurance que... c'est ici qu'il faut que vous vous engagiez, que vous passez des semaines, des mois, des années de votre vie, que vous vous serviez, que votre famille soit ici. Là, c'est quand même une grosse décision. Fait que je vous encourage à sonder l'Esprit de Dieu, sonder le Seigneur pour savoir c'est quoi sa volonté. Mais en tout cas, vous m'avez l'air tout d'être « Ah, mais regarde, Michael! » Hein? T'sais, juste de demander à Dieu « C'est quoi ta volonté? » Hein, au niveau de quelle église que tu me veux pour que je sois utile, hein, te servir. Juste pour revenir à notre passage, puis je pense que ça termine là. Si on regarde au verset 21-22 du chapitre 2, pour être un temple saint, hein, pour être une habitation de Dieu. Dieu, il veut en esprit. Quand vous visitez une église, si vous avez la tendance à visiter des églises, qu'est-ce qu'on devrait se poser comme question quand on visite une église?
Est-ce que tu as un beau bâtiment?
Non! Qu'est-ce qui est prêché? Ouais. Mais tu sais,
où est-ce que le Seigneur nous veut?
C'est ça. Mais tu sais, au niveau peut-être d'activité, de visibilité, d'entendre qu'est-ce qui est prêché. Qu'est-ce qui est central dans cette Église-là? Hein? L'emphase est mise sur quoi? J'espère qu'ici, je pense que oui, le centre de l'Église baptiste de Saint-Augustin, c'est le ministère de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'activités, je le vois. Hein? On est allé dans la vallée de la Jonquière-Cartier. Il y a toutes sortes de belles choses qui se passent dans votre Église, mais j'espère que c'est le ministère de la prédication de la parole de Dieu, parce que c'est ça qu'on a de besoin. C'est ça la première chose. Mais je sais que Guillaume, justement, il fait déjà une bonne job de ça. Gloire à Dieu. Si du jour au lendemain, justement, le Seigneur, il prendrait votre pasteur, pour je ne sais pas quelle raison, il faudrait que vous cherchiez un autre pasteur avec la même emphase que celle-là. Prêcher la parole de Dieu avant toutes les autres activités de l'Église. Parce que c'est de la parole de Dieu que vient l'autorité pour vos vies. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. Puis c'est aussi important que ça soit ça, que ce soit central pour que les gens comprennent bien, les enfants, les personnes qui arrivent, qui parlent une autre langue, tout ça, c'est important que ça soit prêché avec précision. Comme au verset 2, au verset 21-22, on voit que ça commence par « en lui ». Vous avez dû le remarquer, hein? Et que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vu, c'est « en lui ». L'édifice est en lui. Hein? On prêche lui, la personne de Jésus-Christ. Amen. Au niveau local, au niveau universel, tu sais, c'est bien beau, hein, toute l'Église, de tous les temps, youpi. Mais au niveau local, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de plus proche. Il faut qu'il y ait... il faut que, au cours de votre vie d'Église, là, de votre vie de croyant, de chrétien, dans l'Église ou les Églises, là, il faut qu'il y ait eu de quoi, comme j'ai dit au début, tu sais, de l'amour, de l'entraide, de l'humilité, de l'exhortation, de l'édification, du mentorat. Il faut que vous viviez ça, puis c'est la volonté de Dieu. Mais comment c'est possible si... Les gens, ils cherchent, tu sais, « Ah, moi, c'est plus proche là. » Puis, tu sais, ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. C'est pour ça que la membriété, là, je ne parle pas là-dessus, mais la membriété, c'est biblique. Alors, pour moi, c'est une grande bénédiction de pouvoir assister à votre église les dimanches après-midi. Je suis vraiment heureux de ça. Quelle chose merveilleuse, hein, quand que Dieu il regarde son église, comme ici, puis qui voit la liberté qu'il y a, hein, de pouvoir s'exprimer, puis de manifester, puis que les gens puissent dire « je sens la présence de Dieu » après avoir entendu un message, après avoir parlé avec un frère, une sœur. Parce que nous sommes en lui une habitation pour Christ. C'est ça la fin du verset 2. Alors, c'est ça le message. Une habitation pour Christ.
Amen.
Gloire à Dieu. Est-ce que on peut prier en terminant? On a le droit?
Oui.
OK.
Les gens vont prier, tu pourras terminer. On va donner le